Radio ESAP, c'est la radio des élèves.
Bonjour, c'est Radio ESAP. Nous sommes le mardi 5 juin 2018. Il est précisément 10h15.
Radio ESAP, ça c'est de la musique.
La classe 9VG2 du collège d'Elisabeth de Porte, à cheval entre les villages de Crassier et Boret, au-dessus de Nyon, vous présente aujourd'hui une interview exclusive avec deux personnalités genevoises.
Nous avons la chance d'accueillir dans notre studio radio deux stars devenues mondiales grâce à leurs nombreux trophées et aussi grâce à leur médaille de bronze obtenue tout récemment à Pyeongchang en février 2018 en Corée du Sud.
Il s'agit ni plus ni moins de deux des quatre coéquipiers de l'équipe de Suisse de curling, Tim De Cruz. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Peter De Cruz et Valentin Tanner.
Radio Zap, that's your radio.
Peter De Cruz et Valentin Tanner, bonjour.
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 Alors, bienvenue à ESEP, l'abréviation de Elisabeth de Porte, dans notre école de tous les jours et dans notre studio spécialement monté pour l'occasion. Oui, cela fait déjà quelques semaines que notre professeur de classe, Laurent Zepp, nous a appris cette nouvelle incroyable. Vous, les médaillés de Pyeongchang, qui avez accepté de venir vous prêter au jeu de notre interview.
Tout à fait, Samuel. Donc, nous avons eu le temps de préparer nos questions, le montage de l'émission radio et le décor pour faire comme dans une vraie chaîne de radio. Bien évidemment, nous avons dû nous renseigner sur le curling, car c'est pas tous les jours qu'on voit ce sport à la télé.
Alors avant de commencer vraiment l'interview, nous avons quand même concocté un petit rappel sur le curling pour tous les auditeurs qui nous écoutent.
Le curling est un sport de précision pratiqué sur la glace, avec des pierres de granit polies et qui pèsent entre 17 et 20 kg chacune. Ce sport, probablement inventé au 6e siècle en Écosse, a pour but de placer des pierres le plus près possible d'une cible circulaire dessinée sur la glace appelée la maison.
Chaque équipe à tour de rôle place une des quatre pierres à disposition par manche et peut toucher les pierres adversaires soit pour s'aider à venir plus près du centre de la cible, soit pour sortir les autres de la maison. Un match dure environ 2 heures pour 8 à 10 manches.
Il y a 4 joueurs par équipe qui jouent toujours dans le même ordre, le lead qui lance en premier, puis le second, puis le third, puis le skip, et qui est souvent le capitaine de l'équipe. Et un tournoi s'organise comme n'importe quel tournoi de football, par exemple, avec des groupes d'équipes, puis des quarts de finale, des demi-finales et des finales.
Radio ESAP, la radio 100% hit.
Est-ce juste Valentin Tanner ?
Tout juste.
Vous-même, à quel poste jouez-vous ?
En lead, en premier.
D'accord.
Et sur Internet, nous avons même pu voir la chute sur la glace de Peter De Cruz durant la petite finale que vous avez de votre équipe avec brillamment gagné le 23 février passé. C'était drôle parce que vous reculiez et n'aviez vu aucune pierre sur laquelle vous avez perdu l'équilibre. Et patatras, le dos sur la glace. Mais en même temps, cette petite chute ne vous a pas déconcentré, j'imagine.
C'est ça. Le curling, c'est pas un sport très dangereux à la base. Et j'ai trouvé le seul moyen de pouvoir tomber sur la glace, c'est de trébucher sur une pierre.
Ok.
Quel est votre point fort dans l'équipe, Valentin Tanner ?
Mon point fort, ouais, comme il dit, je pense que c'est le balayage qui est très important dans notre sport. Avec mon autre collègue aussi qui est très grand, très, très balèze. Donc ça, je pense que c'est nos points forts aux deux, ouais, le balayage.
D'accord.
Nous avons aussi vu sur Internet que vous étiez le monsieur muscle de l'équipe. On vous voit du reste transpirer à la salle de fitness. Pourquoi faut-il aussi costaud ?
Alors, c'est important pour... Justement, c'est pas l'entraînement physique, c'est pas juste pour un match, c'est pour beaucoup de matchs. Justement, les grandes compétitions, on en fait une dizaine, voire plus. Et on joue tous les jours, pendant 4-5 heures de temps, alors il faut être prêt.
Ok.
Je pose la question 2. Quelles sont les compétences à avoir pour faire du curling ?
Je pense qu'il faut avoir de la patience, un esprit stratégique, comme par exemple des joueurs d'échecs, et aussi de l'adresse.
Comment dire ? Ouais, non, ouais, beaucoup de patience, comme il dit, parce que c'est les parties prennent vraiment du temps, comme j'ai dit, 2h30, donc tu dois vraiment prendre ton temps, même si ça va pas, être très patient, et la situation peut toujours se retourner, c'est souvent le cas. Donc c'est le gros point, je pense, c'est ça, ouais.
D'accord.
Est-ce un avantage d'être grand pour faire du curling ?
Non.
Non ?
Non, c'est pas un avantage, parce que quand on est plus petit, on est plus près de la glace,
okay.
Et du coup, c'est plus facile de se mettre en position pour lancer la pierre.
Ok.
Depuis combien de temps les deux jouez-vous au curling ?
Moi, personnellement, ça fait depuis 2001. Ça va faire environ 17 ans que je joue au curling.
Ouais. Ouais, moi, la même chose. Et j'ai commencé avec lui. On a toujours joué ensemble.
Ok. Okay. Et dans l'équipe Team de Cruz ?
Ça fait combien de temps ?
Comme a dit Valentin, nous, ça fait depuis 2001-2002 qu'on joue ensemble. Et ensuite, on a Benoît qui nous a rejoint en 2008 et Claudio Pet qui nous a rejoint en 2014. Et on a fait le dernier cycle olympique ensemble, donc les quatre dernières années avant Pyeongchang 2018.
Ok. Que ce sport vous a-t-il apporté dans la vie de tous les jours ?
Alors, je pense que ça m'a apporté beaucoup de sagesse, ça m'a beaucoup calmé. Mmh. Avant, j'étais un peu plus agité, déjà pas très sage à l'école, etc. Et ouais, ça m'a quand même pas mal calmé, parce que moi, on apprend à être très concentré, très patient. Et ça, c'est le plus gros point, je pense, c'est ça. Et aussi, quand même, l'autre gros point, c'est de jouer avec une équipe de quatre. On est très proches, on est vraiment obligé d'être amis pour mieux jouer ensemble, donc ça, c'est bien.
Ok.
Qu'est-ce qui vous a motivé à faire du curling et y a-t-il une influence dans la famille ?
En général, le curling, ouais, c'est un sport familial. C'est soit ta mère, soit ton père qui en a fait. Et tu essayes quand t'es petit et du coup, tu prends vite du plaisir. C'est un sport où tu arrives assez rapidement à avoir un bon niveau et trouver du plaisir. Et du coup, après, on a continué pour ça. Valentin, lui, c'était ses parents qui avaient une école de danse juste en haut de la halle de curling. Et du coup, il est allé jeter un coup d'œil une fois et puis il est resté croché.
Et maintenant, Up Down Funk de Mark Ronson et Bruno Mars.
This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Valentin Tanner, comment vous répartissez-vous les différents rôles dans l'équipe ? Est-ce que ça a rapport à la précision, à la gestion du stress ou à la rapidité des coups de balai ?
Comment on se répartit les rôles de qui fait quoi dans l'équipe, c'est ça ?
Ouais.
Quand on commence, c'est clair, on ne peut pas deviner vraiment quel poste on va jouer. Mais, alors pour moi, c'était assez clair que je n'allais pas m'occuper de la tactique. Et lui, oui. Parce qu'il est très fort là-dedans, justement, il est très... très rapide d'esprit pour ça, donc lui c'était évident. Moi je suis plutôt le balayeur, et lui c'est plutôt le cerveau.
Ok. Comment vous êtes-vous connu ?
Au curling.
Et vous voyez souvent en dehors des entraînements et compétitions ?
En fait, les entraînements et compétitions c'est presque tous les jours. Alors du coup, comme on se voit tout le temps, en dehors du curling on n'a pas tellement trop envie de se voir, donc on garde un petit peu la distance.
Peter de Cruz, votre nom d'équipe n'est pas Team Switzerland. Alors, d'où vient l'idée d'avoir appelé votre équipe Team de Cruz alors que ce n'est pas un nom très suisse ?
Non, c'est pas un entrée suisse, effectivement. En fait, c'est une tradition dans le curling de nommer l'équipe par le nom de son skip, de son capitaine. Donc, comme par exemple en football, un Real Madrid, ce serait Team Ronaldo. Alors, c'est un petit peu salaud pour les autres, mais ça ne veut pas forcément dire que je suis le meilleur joueur que ce soit, c'est juste que c'est le capitaine qui prend le nom de l'équipe.
D'accord, ok.
Ce n'est pas une règle systématique, mais Peter de Kroos, vous êtes le capitaine. Pourquoi n'avez-vous pas pris le poste de skip ? Pour info, pour nos auditeurs, c'est le quatrième joueur, le stratège de l'équipe.
Oui, tout à fait. En fait, on a différentes qualités dans l'équipe. On a Benoît qui est très calme, il résiste bien au stress. Valentin, c'est un petit peu le nerveux de l'équipe, c'est le balèze de l'équipe, comme on l'a dit. Et moi, je suis un petit peu entre les deux, peut-être. Du coup, c'est bien pour un numéro 4, pour un skip comme Benoît, d'être calme et résister au stress. Donc, on a fait ce changement quand on était encore en junior et ça a marché depuis.
Votre rôle est-il physique ?
Non, pas du tout. Moi, tout ce que je fais, c'est crier fort de l'autre côté de la piste, faire du bruit. Et quand je joue mes pierres, bah, c'est un mouvement, c'est un geste qui ne demande pas forcément vraiment une grosse préparation physique. Mais ce qui est important, c'est d'être prêt physiquement pour pouvoir durer une longue semaine, 10 jours, comme une compétition comme les Jeux Olympiques.
Et quel est votre point fort ?
Mon point fort, je pense, c'est que j'ai une influence positive en général sur l'équipe et une sorte de petite autorité que les joueurs arrivent à me comprendre mieux peut-être que si quelqu'un d'autre avait ce rôle de capitaine.
D'accord. Quel est votre rôle au sein de l'équipe en tant que capitaine ? Est-ce plutôt un rôle de rassembleur d'équipe, de patron, celui qui se charge de l'affirmatif ?
C'est lui qui va peut-être donner l'exemple en termes d'attitude sur la glace. C'est lui qui va structurer un petit peu l'équipe dans les moments où peut-être ça va un petit peu moins bien. Si on a un moment dans un match où ça se passe moins bien, justement, bah c'est moi qui vais essayer de trouver les mots pour remotiver les troupes. Ouais.
Ok. Valentin Danner, en été, il n'y a pas de glace. Alors comment et quand préparez-vous pour une compétition ?
Alors là, on a la pause justement de avril jusqu'à fin juillet, c'est la pause. Donc il n'y a pas de glace pour personne. Mm-hmm. Parce que ils ferment, ça coûte trop cher à cause de la chaleur, etc. Alors ils ferment les halles, mais à partir de fin juillet, ça rouvre. Donc on va s'entraîner, mais à Baden, donc c'est vers Zurich. À Genève, ça n'a pas encore ouvert. Mais du coup, en attendant, on fait du physique, par contre. Ça, on continue toujours à faire. Ouais.
Et qu'est-ce qu'une bonne préparation physique ?
Alors c'est du cardio, du gainage pour le tronc, et quand même de la force. Il faut du poids pour balayer, il faut beaucoup de poids.
Et mental ?
Préparation mentale, on a un psychologue du sport, ça s'appelle, un préparateur mental si on veut. Mais lui, on le voit, alors pendant l'été, pas trop, enfin pas du tout même. On fait juste des sessions en équipe durant la saison en fait, et des fois individuelles. Et ouais, ça fait depuis 2010 qu'on connaît la personne, donc on quand même un truc qui revient assez souvent. Ouais.
Connaissez-vous vos adversaires ?
Oui, je dirais c'est comme, enfin de nouveau je compare à d'autres sports parce que le curling c'est pas hyper connu, mais si on regarde les grandes équipes de football par exemple, c'est probablement le sport le plus connu. Dans les finales, dans les demi-finales, on retrouve souvent les mêmes équipes, souvent les mêmes joueurs. Et c'est la même chose dans tous les sports. En tennis, on retrouve souvent un Federer, Nadal en finale. Donc du coup on connaît très très bien nos adversaires.
Et en tant que capitaine, Peter de Kroos, analysez-vous leur technique de jeu avec la vidéo pour en discuter avec votre groupe ?
Oui, bien sûr, on utilise beaucoup la vidéo. Bah, le curling, c'est un sport très stratégique. Chaque équipe a un petit peu sa petite spécialité, sa personnalité dans le jeu. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut analyser en continu pour voir s'il y a des évolutions ou des changements.
Combien de temps vous entraînez-vous par semaine ?
Environ 4 heures par jour. Donc ça peut faire 2 heures sur la glace et 2 heures en salle de sport tous les jours. Ou on fait aussi de la préparation mentale, je dirais, hebdomadaire, donc une fois par semaine environ.
Valentin Tanner, est-ce toujours les mêmes activités ?
Pour mes entraînements ?
Oui.
Si je fais toujours la même chose ?
Oui.
Alors en individuel, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, ouais, pour la position que je joue. Parce que les pierres, c'est souvent les mêmes que je vais jouer. Donc les entraînements, ça rend beaucoup de répétitions pendant des heures. Et après en équipe, c'est quand même différent. On fait beaucoup de situations de jeu. Donc stratégie, on joue le rôle des deux équipes souvent. Donc on n'est que 4, mais on joue pour les deux équipes. Mais ouais, entraînement individuel et en équipe, c'est vraiment deux trucs très différents. Et après, individuellement, chacun a son truc perso à faire.
D'accord. Et quel niveau faut-il avoir pour devenir pro ?
Bah, pro. Non, mais c'est... Au fur et à mesure, on se rend compte qu'il faut... Bah voilà, la seule chose qui marche, c'est de s'entraîner tous les jours. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire des choses comme ça cette année. Autrement, c'est pas possible.
D'accord. Peter de Kroos, quelle est votre technique de lancer ?
En fait, la technique de lancer dans le curling, c'est en théorie pour tout le monde la même chose. Après, bah, ça dépend de comment notre corps est construit, de nos spécialités physiques. Il y en a peut-être qui ont des petits problèmes de genoux à force de s'entraîner tous les jours, problèmes de dos, etc. Donc, on adapte un peu la technique. Mais moi, je dirais dans mes coups spéciaux, c'est des coups assez classiques parce que je joue un petit peu en début de manche. Alors du coup, c'est un petit peu comme Valentin, c'est assez souvent la même chose.
Ok. Et vous, Valentin Tanner, quelle est votre technique pour le balai ?
La technique pour le balayage, alors comme je te disais avant, ce qui est important, c'est le gainage, parce qu'on a une position très penchée, comme ça sur la glace, et le poids dans le haut du corps, parce qu'il faut vraiment appuyer fort pour que ça ait un effet. Le but, c'est pas de balayer le plus vite possible, mais d'appuyer le plus fort possible en ayant une fréquence quand même assez haute. Donc c'est ça le plus important, le poids.
Ok, question pour le capitaine. Dans un match, qui impose sa stratégie ? Autrement dit, est-ce que vous imposez votre jeu ou alors vous adaptez-vous au jeu de l'autre pour le battre ?
C'est une dictature, c'est moi qui décide de tout. Non, c'est pas vrai. En fait, on est arrivé à un niveau où les quatre joueurs dans l'équipe savent très bien ce qu'ils font, connaissent très très bien la tactique. Donc moi, ce que je fais, c'est je fais une proposition. Après, on discute un petit peu à travers la glace pour savoir s'il est d'accord avec ça. Et après, on décide de qu'est-ce qu'on va faire. Mais de manière générale, ils ont confiance en moi. C'est pour ça qu'ils m'ont donné ce rôle dans l'équipe. Ils ont confiance en mes propositions stratégiques. Et du coup, donc, c'est moi qui, on peut dire, décide, entre guillemets.
Ok. Pour les deux, avez-vous déjà été victime de blessures dans votre carrière ?
Moi, personnellement, j'ai eu des problèmes dans le bas du dos. Parce que c'est un sport où on fait tout le temps la même chose, on est souvent sur une jambe, donc il peut y avoir des déséquilibres dans le corps. Et si on ne s'occupe pas bien vraiment d'égaliser ces petits soucis, on peut avoir des problèmes dans le dos.
Ouais, moi j'ai eu à l'époque au genou justement, parce qu'à force d'être toujours sur la même jambe, j'avais le genou, il y avait de l'eau qui était dans le genou, les épanchements. Mais maintenant c'est parti, ça va bien, c'est juste des petites fois, ça revient, mais ce n'est pas des grosses blessures. C'est juste que si tu joues vraiment tous les jours, il faut quand même surveiller parce que c'est quand même notre outil de travail.
Et avez-vous le temps de pratiquer d'autres loisirs ou...
Pas tellement. En fait, des choses comme le ski, le foot, d'autres sports, de l'athlétisme, quoi que ce soit, c'est le problème qu'il y a avec ces activités, c'est qu'on peut se blesser. Et il y a des gens qui s'investissent, qui nous donnent de l'argent pour qu'on soit professionnel. Et du coup, on ne peut pas aller s'amuser non plus à faire n'importe quoi, revenir avec des ligaments déchirés ou quelque chose comme ça, et dire « désolé, je ne peux pas jouer pendant quelques mois ». Donc on fait très attention à ce qu'on fait en dehors du sport.
Quels sports peuvent être complémentaires au curling ?
Déjà, les sports, si je peux dire, comme il a dit, échecs, par exemple, c'est vraiment le même cheminement. On dit beaucoup le golf, il y a beaucoup de ressemblances, mais pas du tout la pétanque, comme tout le monde dit. Tout le monde dit ça, mais c'est pas vrai.
En tant que chef d'équipe, quel est votre objectif pour fin 2018 et 2019 ?
Là maintenant, l'objectif, comme on a fini les Jeux Olympiques, une équipe de curling, ça se construit pour 4 ans. Chaque cycle olympique, parce que les Jeux Olympiques, c'est le plus gros événement. Et voilà, on est arrivé à la fin des Jeux, donc l'équipe s'est un petit peu dissous, on a perdu un joueur, on a perdu un coach. Et maintenant, le challenge, c'est d'essayer de retrouver une équipe qui est compétitive au niveau mondial. Et puis ensuite, reprendre la saison vers début septembre, les compétitions recommencent. Et ensuite, la prochaine grosse étape, championnat d'Europe, fin novembre.
Ok, on l'espère, mais verra-t-on encore Team de Croo durant quelques années ?
On les verra après. Où exactement ? Dans le sport, on ne peut jamais savoir. Il peut y avoir des choses hors contrôle qui se passent. Donc on verra, on l'espère, on croise les doigts en tout cas.
D'accord. Et maintenant, comme musique, Firestone de Kygo avec Conrad Sewell.
Desire, or we can burn in love. Parlons maintenant des matchs à Pyeongchang. Y a-t-il eu beaucoup de rivalités avec les autres équipes de curling? Je vais laisser la parole aux spécialistes du ballet.
Alors de rivalité, je dirais pas vraiment, parce que comme il disait Pierre tout à l'heure, on est avec la plupart, on est vraiment potes. Je vais pas dire amis, mais potes parce qu'on se voit toute l'année. Donc, alors c'est clair, c'est la plus importante compétition de notre vie. Mais il n'y a pas de méchanceté ou il n'y a pas de provocation. C'est bien, on a bien de la chance que notre sport soit comme ça. C'est pas comme, je sais pas, il peut y avoir justement des fois en foot ou voilà, des gens qui stagnent, j'en sais rien. Chez nous, c'est un truc qui n'existe pas. Donc on a de la chance pour ça.
Et y avait-il beaucoup de fans club et d'ambiance dans la patinoire?
Il y avait pas mal de monde. Ouais. C'est juste que c'était quand même très loin pour aller là-bas. Très cher aussi. Donc pas toutes les familles n'ont pu être là ou tous les membres du club. Enfin voilà, c'était difficile de réaliser ça. Mais je sais que beaucoup de gens regardaient à la télé, on a reçu beaucoup de messages. Et oui, là-bas, il y avait quand même une base de gens qui venaient voir tous les matchs, c'est clair.
Peter de Cruz, votre coéquipier Claude Pletz a intégré votre équipe en 2017. Il l'a quitté juste après les Jeux Olympiques à Pyeongchang. Est-ce pour raison professionnelle?
Oui, c'est juste. Lui, en fait, quand il a intégré l'équipe, il nous a tout de suite dit que, comme il avait déjà fait les Jeux Olympiques à Sochi, il allait juste faire les saisons avant Pyeongchang 2018. Lui, c'est vraiment ce qui l'intéressait, pardon. C'était retourner aux Jeux Olympiques. Et il nous a toujours dit qu'il allait reprendre ses activités professionnelles après la saison. Et bah, c'est ce qui est arrivé.
Pour les matchs de demi-finale opposant la Suisse à la Suède, vous avez dû effectuer 8 parties. Dans l'autre demi-finale, entre les États-Unis et le Canada, il a fallu 10 parties. Pourquoi cette différence?
Parce qu'on était très en retard au score. En fait, c'était un match où l'équipe de Suède, en fait, est numéro 1 mondial. C'est la meilleure équipe au monde. Et s'ils jouent leur jeu, s'ils arrivent à bien jouer, il n'y a presque personne qui a une chance de gagner. Donc, on a pris un petit peu des risques en début de match. Et on était tellement en retard au score qu'on ne pouvait plus rattraper. Et du coup, on a abandonné avant.
Question pour les deux curleurs que vous êtes. Comment gérez-vous le stress en compétition? Et plus particulièrement lorsque vous étiez dans la petite finale contre le géant canadien?
Ouais, nous en fait ça fait depuis 2010 qu'on travaille avec un préparateur mental. Et justement bah, c'est pour ce genre de choses, c'est pour gestion du stress. C'est comme par exemple vous à l'école, si vous avez une grosse épreuve qui vient à la fin du mois et puis votre année en dépend, bah, vous allez être nerveux. Nous, la différence, c'est que c'est 4 ans de préparation pour une compétition. Et du coup, un match, c'est hyper stressant. Donc, technique de relaxation, c'est de la respiration, visualisation, travailler les routines, etc. pour qu'on puisse jouer le même niveau dans un match qu'à l'entraînement.
D'accord. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer en curling dans un grand tournoi international?
Déjà ça, tout cet aspect stress quand même, qui est très important, qui est décuplé là-bas, surtout au JO. Et après, les deux autres points, je dirais, c'est l'aspect média qu'il y a là-bas. Il y a vraiment des médias partout, des radios, des journalistes, des photographes. Après chaque match, il y a des interviews, ça on ne le voit pas à la télé, mais il y a un dédale de journalistes, on doit répondre aux questions. Donc tu es gagné, perdu, voilà, tu dois être calme et répondre à tout le monde. Tu ne peux pas ignorer, dire non, je suis énervé, je vais me changer, je ne vous parle pas. Donc ça, c'est ouais, l'autre gros point qu'on a moins l'habitude d'avoir dans les autres compètes.
Ouais. Valentin Tanner, est-ce difficile pour le curleur de passer du balai à la lancée de pierre? Comment cela se passe-t-il dans la tête?
Ce qui est dur des fois, c'est si je dois balayer, je joue au début et je balaye ensuite, mais pour les 3 autres joueurs. Tu vois. Donc si je balaye les 2 dernières du numéro 4, par exemple, comme un fou, je balaye les 2 pierres à fond, c'est hyper important, tout ça. Et droit derrière, donc c'est moi qui dois commencer la manche d'après. Donc des fois, je suis encore un peu essoufflé et ça, c'est dur. Il faut que je me calme justement en respirant bien. voilà, en se posant et tout. Donc c'est ce changement-là qui est des fois qui est un peu éprouvant, on va dire.
Radio Ezep, la musique qui va t'emporter. Hey, hey.
En 2016, Peter de Kroos vous disait dans un interview que vos objectifs étaient d'atteindre la finale au championnat d'Europe en novembre 2016 en Écosse et de vous qualifier pour les play-offs aux mondiaux de Edmonton au Canada en avril 2017. Vous avez été médaillé de bronze en Écosse, médaillé de bronze au championnat d'Europe à Saint-Gall, médaillé de bronze aux mondiaux à Edmonton, championnat suisse en 2017, donc représentant pour les JO en Corée du Sud. Et cerise sur le gâteau, médaille de bronze olympique à Pyeongchang en février 2018. La team suisse de Kroos fait peur aux Canadiens et aux Suédois qui sont particulièrement favoris. Comment expliquez-vous cette formidable progression sur le plan mondial ?
Je dirais que c'est pas du travail qui vient d'un coup comme ça. C'est travail long terme. Déjà en 2010-2011, on était championnat du monde junior. Ça, c'était nos premières expériences. Et après, en fait, ça nous a quand même pris 6-7 ans pour arriver à ce niveau, au plus haut niveau mondial. Après, bah, c'est clair que ça fait beaucoup de médailles de bronze et pas beaucoup de médailles d'or. Donc, notre prochain objectif sera d'essayer de transformer ça en médaille d'or. Mais c'est un processus qui prend vraiment du temps de pouvoir arriver à préparer et avoir le niveau pour remporter des grandes compétitions.
Quel est votre ressenti après cette magnifique aventure en Corée du Sud ?
Bah, c'était notre objectif de vie. Quand on est petit, bah, des fois on a un rêve, des fois on veut faire de la musique, on veut chanter, on veut jouer au foot. Bah, nous, c'était de jouer au curling aux Jeux Olympiques. Et ouais. Et du coup, ça, c'était notre premier rêve, c'était y aller. Et on savait que ça allait être une expérience incroyable, pouvoir être mélangé aux autres athlètes, rencontrer des stars internationales, jouer au curling devant des millions de gens. Donc ça, c'était une belle expérience. Hein.
Et vous, Valentin Tanner, qu'est-ce que vous avez ressenti en gagnant la médaille olympique en bronze ?
Alors, c'est clair, c'est énormément d'émotions. Je ne sais pas si vous avez vu les images un peu quand on a gagné, justement. Enfin, c'est vraiment, au moment où on gagne, on se repasse un peu tout le temps que ça a pris, comme il dit. Il y a beaucoup de gens qui pensent, voilà, ils disent « Ah, bravo pour le travail ces dernières années et tout », mais on a quand même commencé il y a hyper longtemps. C'est la récompense de tout ce travail qui tombe, et c'est beaucoup de joie, c'est envie de rigoler, de pleurer, d'exploser, c'est un peu tout en même temps. Donc ouais, pour nous, c'est le Graal, donc c'est incroyable.
À vous deux, comment gérez-vous la célébrité ? Avez-vous suivi des cours de psychologie ou des cours pour savoir comment parler avec les médias ?
Non. En fait, on est dans un sport où on n'a pas beaucoup de présence médiatique. Même après les Jeux, il n'y a pas eu tant. Il y a eu durant les Jeux Olympiques. Donc oui, il y a eu une préparation pour ça. On a dû travailler avec des gens de la RTS, par exemple, pour pouvoir préparer les interviews, etc. Mais sinon, après, c'est quelque chose que tu apprends à faire au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de faire des interviews. Tu apprends à parler ouvertement, à parler aux gens. Et en fait, ce que les gens ont envie d'entendre, c'est ton histoire, ton caractère, et pas juste quelque chose de trop structuré, trop ennuyant, en fait.
Qu'est-ce qui a concrètement changé pour vous deux depuis la médaille de bronze au JO, à part l'interview d'aujourd'hui chez nous ?
Ouais, je me réjouissais vraiment de l'interview d'aujourd'hui après les médailles, donc je suis très heureux. Non, si, ça change. Alors c'est clair, la médaille, c'est magnifique, tout le monde nous dit que c'est quelque chose de fabuleux, tout ça, donc ça change. Les gens s'intéressent quand même plus à nous et plus au sport, évidemment. Parce que, alors en Suisse romande en tout cas, parce qu'avant c'est toujours des Suisses allemands qui gagnaient. Et là on est trois romands dans l'équipe. Et on est trois de Genève. Alors du coup, les gens en ont beaucoup plus parlé, en tout cas à Genève, parce qu'à l'époque ils n'en parlaient pas. Donc c'est marrant, ouais, on est beaucoup passé à la télé, les journaux, les interviews, la radio aussi. Donc voilà, mais c'est surtout. Alors oui, sur le moment c'est sympa, c'est rigolo, c'est clair, mais ça t'aide surtout pour les saisons à venir. Pour les sponsors, pour. Voilà, les gens, ils savent maintenant qui on est, donc ils s'intéressent plus à nous, donc ils sont peut-être intéressés de nous donner plus d'argent ou faire des contrats de sponsoring avec une nouvelle personne, par exemple.
Depuis cette victoire finale contre le Canada, symbole de médaille de bronze, sentez-vous que les gens vous prennent davantage au sérieux qu'avant ?
Oui, bien sûr. En fait, ce qui est drôle dans notre sport, c'est qu'on peut parler d'une médaille au championnat d'Europe ou médaille au championnat du monde et ça ne change absolument rien. C'est cool, mais par contre les gens savent que tous les 4 ans aux Jeux Olympiques d'hiver, il y a le curling. Et c'est un sport, en fait, c'est le sport qui a le plus de direct, par exemple, sur la RTS. Donc, du coup, les gens savent Jeux Olympiques, curling, et si on gagne une médaille là-dedans, et bah, tout de suite, ça leur donne un petit peu de notoriété. Ils peuvent s'identifier à quelque chose qu'ils connaissent, à un niveau qu'ils connaissent, qui est les Jeux Olympiques.
Musique, Let Me Love To You de DJ Snake avec Justin Bieber.
To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down.
Deux questions pour le capitaine. Quels sont vos partenaires et sponsors financiers actuels ?
On en a plusieurs. Je dirais les principaux, c'est l'aide sportive suisse, le canton de Genève, qui nous soutient beaucoup. Et après, on a quelques sponsors privés, les services industriels de Genève. On a un sponsor équipementier, un sponsor balai, ça peut sembler drôle. Et d'autres aussi, fondations et personnes qui nous aident à pouvoir faire notre saison. Hein.
Comment entretenez-vous le lien avec ces sponsors ?
C'est hyper important en curling, en fait, de beaucoup donner au début. Pas demander trop de prestations, trop d'argent, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup à vendre dans le curling. C'est difficile de se mettre en avant, de dire, voilà, vous serez régulièrement à la télévision, parce que ce n'est pas le cas. Mais il faut être gentil, il faut faire des initiations au curling, par exemple, leur faire découvrir notre sport. Et puis, en fait, c'est au fur et à mesure des années qu'on construit une relation de confiance avec eux, et ils continuent à nous soutenir à long terme.
En fin de compte, Valentin Tanner, si un jeune de l'école ou un adulte souhaite participer à ce sport, que conseillez-vous de faire et où aller ?
Alors, il faut venir, faudra venir jusqu'à Genève, désolé. Si vous voulez nous voir, ça sera à Genève. Sinon, il y a d'autres patinoires. Il y a Lausanne, Morges, mais Genève, c'est quand même cool. C'est une grande patinoire qui est assez neuve. Il y a des initiations, il y a des cours pour les jeunes, il y a beaucoup. Je sais plus, lui, c'est les... Il sait quand venir, je ne sais plus les dates exactes, mais c'est en septembre, je pense.
Non, il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées déjà en septembre. La saison de curling, c'est environ de septembre à fin mars, début avril. Donc, il y a des journées portes ouvertes, il y a de l'école de curling, il y a pour les jeunes aussi. Donc, pour avoir des informations sur le site internet Curling Genève, on trouve sur Google. Et les informations sont tout de suite là, accessibles à tout le monde.
Est-ce un sport qui coûte cher ?
Non, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas un sport qui coûte cher. Il y a des frais d'inscription, mais une fois qu'on est inscrit, après tout est sur place. Il y a le matériel, il y a les balais, il y a les pierres. Donc c'est pas un sport où on doit renouveler notre matériel très très régulièrement comme d'autres. Donc souvent les gens ont un petit peu la mauvaise image du curling comme étant un sport un petit peu chic et cher, mais en fait pas du tout, c'est accessible à tout le monde.
Et le matériel de curling coûte-t-il cher ?
Alors oui et non, ça dépend. Si tu prends du matériel justement pour une utilisation, on va dire une fois par semaine par exemple, si tu dois pas prendre le matériel hors de prix, hyper moderne, mais on va dire de base, je sais pas, une paire de chaussures coûte, je sais pas, on va dire 80 francs, quelque chose comme ça. Et un balai, les balais ils sont toujours disponibles sur place, donc t'es pas obligé d'en acheter un. Après tu peux en acheter un perso, il va coûter, ça peut aller de 100 à 200 francs. Un balai tu peux le garder toute ta vie, donc ça va.
Peut-on faire un métier qui nous permette de gagner notre vie à 100%?
En même temps que le curling?
Oui.
Non.
Non.
C'est pas possible. En fait, juste pour donner une idée, donc une saison de curling, comme je disais, c'est de septembre à avril environ. Et nous, en fait, sur ces quelques mois, on passe plus de la moitié du temps à l'étranger, rien que pour des compétitions. Et après, quand on est en Suisse, on s'entraîne 4 heures par jour. Donc ça laisse les quelques jours où on est en Suisse durant la saison, ça nous laisse 3-4 heures peut-être pour travailler. Donc trouver un employeur qui est assez flexible pour dire « Oh, voilà, semaine prochaine, je serai là lundi matin et vendredi après-midi. On se voit là-bas. » Ça, c'est difficile à trouver.
Sinon, quelle autre activité faites-vous en dehors de ce sport ?
Moi, actuellement, rien. En fait, c'est 2 ans avant les Jeux Olympiques, on s'est mis à plein temps dans le curling pour vraiment se donner les meilleures chances de pouvoir faire un bon résultat aux Jeux Olympiques. Et ça vient de terminer. Et puis là, maintenant, on est en train de préparer le nouveau cycle olympique. Donc, on est en train de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à côté du curling pendant ces 4 ans.
Pour finir en beauté, Valentin Tanner et Peter de Kroos, est-ce vous qui faites le ménage à la maison et donnez des coups de balai de manière si énergique, ou laissez-vous cette activité à une femme de ménage ?
Alors, moi personnellement, je ne balaye pas dans le curling, donc j'ai pas besoin de m'entraîner à la maison.
Un grand merci pour avoir accepté de venir ici à Crassier et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et peut-on les applaudir ?
Quelle question.
Maintenant, musique Jamming de Bob Marley et The Wailer.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price, we're the living sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming.
Retrouvez-nous sur www.radiobus.fm, rubrique école, et cherchez l'école de Crassier Elisabeth de Porte.
Radio Zep, c'est ta radio. Hey, hey.